Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette heure d'errance en terre rock, folk, etc. Tindersticks sont-elles un métronome, un vieux métronome, un peu cassé, un peu déréglé? Si depuis le début des années 70, la matière de leur musique semble la même, grave, moelleuse et assez désespérée, d'une constance qui, si elle ne suscite pas d'effet de surprise, promet à chaque occasion l'excellence, les chansons de Tindersticks échappent cependant à tout tracé rectiligne, toute ligne droite. Sous le coup de sauts d'humeur, d'un abattement plus profond que d'habitude, ou d'un sursaut cadencé en proie aux aléas d'une météo qui balayera quelques sécheresses en d'amples aplats aqueux, ou réchauffera une longue nuit d'une vive flambée, la musique de Tindersticks finalement n'est jamais véritablement la même. Les Anglais sont parvenus à faire de chacune de leurs sorties de disques, de chacun de leurs rendez-vous publics, une manière de suspense intime, de conversation incertaine. Parfois, leurs compositions se frottent à l'irruption des chansons de quelques autres, dont Tindersticks s'empare comme si leur vie en dépendait. On se souvient des reprises, offertes au début de leur carrière, de chansons de Tones Van Zandt, de Lee Hazlewood, de Otis Redding ou encore de Pavement, de la même intensité qui semble baigner, sereinement toujours, leurs propres chansons. Début 2016, apparut un disque enregistré en concert une année auparavant, à la Philharmonie de Paris. Y figure une reprise de la chanson des années 50, Johnny Guitar, créée par Peggy Lee pour le film du même nom, réalisé par Nicholas Ray. La voici.
Play the guitar. Play it again. Johnny, maybe you're cold, but you're so warm inside. There was never a man like my Johnny. Like the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. Maybe you'll go, maybe you'll stay. One they call piano guitar. Play it again, piano guitar.
Johnny Guitar, sur la carte des westerns, habite un territoire à part, une île reculée. Ce sont deux femmes qui impriment son rythme et donnent son ton au film de Nicholas Ray, deux héroïnes comme autant de faces d'une même lune américaine. Vienna est libre, indépendante et assume ses sentiments, dussent ces derniers la porter à la marge. Emma est conservatrice, grégaire et brûlée par la haine. Bien sûr, Johnny Guitar est un film magnifique, une œuvre majeure, magistralement réalisée et interprétée. Mais elle est aussi l'incarnation de ce qui se joue aux États-Unis à ce moment, ces années 50. La chasse aux sorcières, orchestrée par le sénateur McCarthy, qui sévit particulièrement dans le monde des artistes et à Hollywood. Les robes rouges ou blanches de Vienna ont les couleurs de l'émancipation, de l'amour, d'une certaine pureté des sentiments, les couleurs de la vie. Les robes noires d'Emma ont la teinte mortifère des forces réactionnaires, de leur violence systémique, celle du puritanisme religieux et du bellicisme ordinaire. La musique est, dans Johnny Guitar, forcément du côté de la paix, de l'amour et du respect. Et la chanson Johnny Guitar, alors, de devenir un petit hymne à la beauté fragile de l'amour qui parvient toujours à se nicher au cœur du chaos. Un demi-siècle après sa création, la chanson fut reprise par la comédienne et chanteuse française Jeanne Balibar à l'occasion de son premier album, Panamour.
Play it again, my Johnny. You can be warm inside. I was always a fool for my Johnny. Play it again, Johnny.
rêvait d'un disque aux allures légères de divan profond, comme des garçonnières, d'étranges fleurs, d'étagères. J'étais d'humeur à lire Baudelaire. En jouant avec les mots pour le journal L'Humanité, Jeanne Balibar tentait une description de la musique qui s'offre à nous au travers de ses deux albums, gravés en 2003 et 2007, dont se faisait à l'instant entendre un extrait du premier, intitulé Panamour. Cet extrait, c'était la reprise que Jeanne fit de Johnny Guitar. Panamour est tout entier baigné des guitares bleu métal du musicien Rodolphe Burger, qui y compose les musiques, assure quelques chœurs et la réalisation artistique de l'album entier. En 2003, au moment de la parution de Panamour de Jeanne Balibar, Burger vient de mettre fin à son groupe Catonoma, qui s'appliqua à offrir une digne descendance au rock vénéneux du Velvet Underground au sein de l'Hexagone. Après Catonoma, les collaborations s'ajoutent à la carrière solo de Rodolphe Burger. Bachung, Françoise Hardy, Jacques Higelin, ainsi qu'un deuxième album avec Balibar. En 2007, Rodolphe Burger, dans la quasi-solitude, fait paraître un disque enregistré en studio mais dans des conditions live, un disque uniquement constitué de reprises. De disques de Catonoma ou extraits de disques que Burger put graver sous son nom, mais aussi des reprises de morceaux qui firent date dans l'histoire rock et folk. Burger convoque alors nos souvenirs et fait apparaître quelques fantômes grâce au pouvoir magique de sa guitare.
A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, inside it's long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching ever shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines. The days of Pearly Spencer, pressed hard on frosted glass, gazing at a swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smart as the air, at withering they stand and stare through eyes that neither know no care where the grass is gone. Spencer, the race is almost run. Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? It's buried in the rope gap gin. You played and lost and won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats can run. The days of Pearly Spencer. Strong.
Dans l'art de la reprise, Rodolphe Burger toujours excella. Kat Onoma rendit hommage en son temps à quelques pierres précieuses et fondatrices du rock'n'roll. Bebop Lula de Gene Vincent, Come On Everybody de Eddie Cochran, Wild Thing des Troggs. Rodolphe Burger, sous son seul nom, continua l'œuvre de mémoire en revisitant, transfigurant souvent, les chansons de Iggy Pop, The Rolling Stones, Bob Dylan. Trois de ses disques sont uniquement composés de reprises. Un premier consacré au répertoire du Velvet Underground, un second constitué de reprises de chansons qu'il avait lui-même composées pour Kat Onoma, et un troisième, Valet Session, dont est extrait cette reprise de The Days of Pearly Spencer, originellement interprétée par David McWilliams en 1967. Sur Valley Session, Burger reprend des chansons qu'il avait déjà auparavant reprises et gravées sur disque. Offrant d'infinies variations sur les mêmes thèmes, le chanteur-guitariste nous plonge dans les eaux troublées d'un passé sans cesse revisité, retravaillé, redessiné. Les deux seules reprises inédites qui figurent sur ce chef-d'œuvre qu'est Valley Session sont cette reprise de David McWilliams, ainsi qu'une reprise de Joy Division, leur célèbre et désenchanté Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart, qui sera l'unique succès populaire du groupe Joy Division, paraît en 45 tours en juin 1980, soit un mois après le suicide de son chanteur, Ian Curtis. Parmi les nombreux problèmes auxquels Curtis ne parvenait décidément plus à faire face, il y avait son histoire d'amour avec sa femme Deborah, qui se délitait. « L'amour nous déchirera », confie ici Curtis, qui, et c'est assez exceptionnel pour être souligné, puise dans sa vie l'inspiration du texte de cette chanson. Le single « Love Will Tear Us Apart » avait été enregistré en mars 80, mais la chanson avait auparavant déjà été enregistrée par Joy Division le 26 novembre 79 dans les studios de BBC Radio 1. La diffusion eut lieu le 10 décembre 1979 lors de l'émission du DJ John Peel pour ses célébrissimes Peel Sessions. C'est cette version première que nous écoutions à l'instant dans Eldorado. Quand on ouvre le dictionnaire du rock à l'article « Radio », John Peel occupe bien sûr de nombreuses lignes. John Peel, 1939-2004, est le roi des DJ de l'underground. Il va se faire le champion successif des nouveaux groupes hippie, Pink Floyd, The Soft Machine, puis de la musique progressive, King Crimson, Family, Jethro Tull, Robert Wyatt, Can, etc. Il embrassera ensuite la cause du punk rock. Son 45 tours favori de tous les temps restera Teenage Kicks, des Undertones, et son groupe fétiche The Fall, et des courants indépendants qui s'ensuivirent. À partir du milieu des années 80, John Peel publie conjointement avec la BBC, sous le label Strange Fruit, certaines de ses fameuses Peel Sessions enregistrées depuis 1967, et lors desquelles les artistes jouaient en direct dans un studio sans public. Ce sont, au bout du compte, plus de 4000 séances, avec près de 2000 groupes qui ont été immortalisés. Véritable institution des week-ends de la BBC, l'homme est resté jusqu'à sa mort, le 25 octobre 2004, le défricheur de toutes les musiques alternatives et de ceux qui, en général, poussent leur premier cri. Au mi-temps des années 70, quatre adolescents qui fréquentent le même lycée de la ville de Derry, en Irlande du Nord, montent un groupe, The Undertones, dont les chansons seront très influencées par le punk, celui des Ramones et des Stooges. Un premier 45 tours paraît en 1978 sur un petit label de Belfast, Good Vibrations, alors que les jeunes gens ne se sont jamais produits, ou presque, en dehors de leur ville provinciale. La légende dit que ce 45 tours, dont la face A propose l'irrésistible Teenage Kicks, n'aurait coûté que 200 livres, et que cette somme aurait été offerte par le DJ de la radio BBC, John Peel, qui est littéralement tombé amoureux de cette chanson. Le 45 tours paru, Peel ne cesse de le diffuser sur les ondes, parfois deux fois de suite, jusqu'à ce qu'un label beaucoup plus important, Sear Records, signe les Undertones pour le rééditer. Les 7000 premiers exemplaires, glissés dans une pochette rudimentaire pliée en 6, se sont écoulés comme des petits pains. Philippe Auclair décrit ainsi Teenage Kicks. Si l'emballage est fruste, le disque lui-même est un joyau. La voix électrisante de Fear Girl Sharkey, au timbre bêlant et en même temps parfaitement juste et assuré, dressée contre le mur d'accords en barré, asséné par les guitares des frères O'Neill, prend un ton tout à fait goguenard, frustré, arrogant et agressif, offrant un pur concentré de frustration adolescente. Jusqu'à la fin de sa vie, John Peel confirmera que Teenage Kicks est sa chanson préférée de tous les temps. Et pourtant, le DJ dut en écouter un nombre pharaonique. Quand en 1983, The Undertones décide de se séparer après une poignée de singles imparables et d'albums impeccables, les deux frères et membres fondateurs John et Damian O'Neill initient une nouvelle aventure, le groupe That Petrol Emotion. En 1988, paraissent sur le label Virgin le troisième album des Irlandais du Nord de That Petrol Emotion, End of the Millennium, Psychosis Blues. That Petrol Emotion n'eurent de cesse de clamer leur amour de la musique des autres et de l'influence que celle-ci put avoir sur leurs propres chansons. Et ses influences étaient diverses, constituant un creuset au sein duquel ils chauffèrent leur huile minérale. Can, Sly and the Family Stone, The Beatles, Africa Bambaataa, Television et Captain Beefheart furent revendiqués par That Petrol Emotion. Dans le cas de Captain Beefheart, revendiqué et repris. Dès le premier quatre titres du groupe est reprise une chanson de Beefheart, Zigzag Wanderer. Sur le quatre titres Cellophane, dont on écoutait précédemment la chanson titre, c'est Hothead du même Don Van Vliet, alias Captain Beefheart, qui ferme la marche. Captain Beefheart publia son premier album en 1967. Bien sûr, on y entend de bout en bout une filiation avec le blues, mais déjà, la musique fait fi de toute classification, échappe à tout radar. Captain Beefheart, dès son premier album, est un animal qui évolue en totale liberté. Captain Beefheart a tout naturellement sa place dans le dictionnaire snob du rock, coécrit par David Camp et Stephen Daly. Fabrice Guéniaud évoque ainsi cet ouvrage étrange et attachant, parce qu'ils souhaitent faire partager leur savoir et rompre ainsi la malédiction d'un obscurantisme sectaire, deux journalistes de Vanity Fair ont rédigé un lexique très pointu à l'usage des aspirants diplômés en rockologie. Le rockologue est une sorte de snob, érudit, cultivant avec une délectation contagieuse, un élitisme des plus restreints, une partialité saugrenue et une certaine mauvaise foi lorsque son crédit est en jeu. Oui, certes, il y a une bonne part de partialité saugrenue et un peu de mauvaise foi dans le dictionnaire snob du rock, mais ce dernier est écrit avec une passion sincère pour la musique populaire, et cette fausse posture snobinarde révèle finalement un ouvrage très attachant et attaché à certaines figures marginales et bigarrées de l'histoire du rock. Donc oui, Captain Beefheart a tout naturellement sa place dans le dictionnaire snob du rock. En voici d'ailleurs la notule in extenso. Beefheart, Captain. Pseudonyme de Don Van Vliet, enfant du désert californien et ami d'enfance de Frank Zappa, dont l'album Trout Mask Replica de 1969 est, selon les rockologues, un classique dont l'éclat ne se révèle qu'après 6000 et quelques écoutes. Dans une chanson type de Beefheart, on entend généralement Van Vliet brailler comme un dément par-dessus les performances complexes, quoique chaotiques, de son groupe le Magic Band, dont les membres s'étaient affublés de noms loufoques comme Zoot, Horn, Rollo ou Antennae, Jimmy Simmons. Van Vliet abandonna la musique au début des années 80 pour se consacrer à la peinture. La notice consacrée à Beefheart se termine, comme c'est souvent le cas dans l'ouvrage, par une petite phrase qu'il serait de bon ton de confier lors d'un dîner à quelques voisins rockologues. Son esthétique a beau provenir directement du Dust Bowl, la voix éraillée de Tom Waits évoque un chouïa Beefheart.
Tell a bigger tale. I swear to God, you'd have to tell.
La musique des débuts de Tom Waits de 1973 à 1983 est une façon de jazz blues cabaret, équivalent musical des films noirs ou des romans de Charles Bukowski. Puis arrive son album Swordfish Trombones en 1983, dont on entendait un des titres à l'instant, et Waits largue alors sévèrement les amarres et tourne le dos à toute convention, à toute routine. Ce tournant lui fut inspiré par deux musiciens. Tout d'abord, Captain Beefheart, que lui fit découvrir sa nouvelle compagne de l'époque. Et alors, Waits d'emprunter la rossité de Beefheart. Stéphane Deschamps, au sujet de la voix du chanteur, put écrire avec humour. Il dit avoir trouvé sa voix à force d'excès tabagiques, alcooliques et cacophoniques. On pense plutôt qu'il s'est fait greffer un tuyau de poils dans la gorge et n'a jamais appelé le ramoneur depuis. Le deuxième musicien à l'influence déterminante pour Tom fut Harry Partch, facteur cheval du monde de la musique, qui inventa sa propre gamme de tons et ses propres instruments de musique à partir de matériaux trouvés dans les poubelles. Tom Waits, au sujet de Partch, confie. Harry Partch a démonté et reconstruit sa propre version de la musique, redéfinit son concept même et ses buts, mais j'aime surtout les sons qu'il produit. Vous savez, je n'aime pas les lignes droites. Le problème, c'est que la plupart des instruments sont carrés et la musique est toujours ronde. Pour mettre en œuvre la musique kaléidoscopique de Swordfish Trombones, Tom Waits convie en studio un grand nombre de musiciens, tous issus d'horizons complètement différents. Parmi eux, on rencontre le bassiste du groupe Canned Heat, Larry Taylor.
my fingers on the coffee pot. Toast was cold and orange juice was hot. I should start over, but you know I'd rather not. Same thing gonna happen again when that's back in. You know, last night as I was walking down the street, whistling the blues to the tapping of my feet, some old cranks called the cops on the beat. It'll happen every time, every morning when I get up. I miss my connections and I'm late for work again. You know they'll probably drop the atom bomb the day my ship comes in. I doesn't bet a nickel cause it get paid off in yen. Somehow you just can't win when that's back in. Gone. Playing the same old melody keeps on bringing back those blue memories. You know this evil feeling's gonna be the death of me. Think I'm going out of my mind every morning when I get up. I put my fingers on the pot. Toast was cold and the juice was hot. I should start over, but you know I'd rather not. Same thing again, that's the bag I'm in. Ah, that's the kind of bag I'm in. I'll never get out of these blues alive, cause that's the bag I'm in.
Consécutif, Time Was, interprété par le groupe Canned Heat, extrait de leur album Alléluia, leur quatrième, publié en 1969, l'année de leur succès au festival de Woodstock. Puis That's the Bag I'm In par Fred Neil en 1966, extrait de son album Fred Neil, son troisième. C'est sur cet album que l'on peut retrouver ses deux plus grands succès, Everybody's Talking, que popularisera Harry Nilsson dans la bande originale du film Macadam Cowboy, et Dolphins, que reprendra merveilleusement Tim Buckley dès 1968. Sur le disque Fred Neil, on retrouve auprès du chanteur et guitariste américain des musiciens au talent exceptionnel, comme par exemple Billy Mundy du groupe de Zappa, The Mothers of Invention, ainsi que Alan Wilson, le leader du groupe Canned Heat, à l'harmonica. Cet album nous rappelle les talents de compositeur de Neil, ainsi que son attachement indéfectible au blues. Ainsi, en seconde position, se niche une reprise d'un titre de Elizabeth Cotten. Et c'est avec elle, son jeu de guitare unique au monde, sa voix de grand-mère lessivée contre laquelle on rêve de se blottir, que s'achève cette errance en terre rock, folk, etc., que se termine cette émission d'Eldorado. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Pour aller plus loin, pour réécouter les émissions, je vous invite à vous rendre sur le site www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
Chestnut Street, place the stone at my head.